Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors nous allons parler très longuement sur le leadership. Donc je vais intervenir d'aujourd'hui jusqu'à samedi inclus. Et je vais vous faire 3 sessions à chaque fois. Et je vais vous encourager, je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement important. C'est à propos du leadership. Et on va étudier des lois du leadership, on va en étudier 21. Ce cours, entre autres, je donnerai le crédit à John Maxwell, qui est un Américain qui a enseigné et qui enseigne beaucoup sur le leadership. Et je lui donnerai le crédit pour ce cours. C'est pas un cours que j'ai créé de moi-même de A jusqu'à Z, il y a des choses que j'ai mises dedans, bien évidemment, mais je me suis inspiré, entre autres, de ses enseignements. Nous devons apprendre à construire et à reconnaître aussi ceux qui aident et ceux qui ont eu un certain nombre de révélations, entre autres sur différents domaines de la parole de Dieu. Et nous allons découvrir, entre autres, dans cet enseignement que je vais vous faire, et c'est important que vous soyez là régulièrement à toutes les sessions d'enseignement. Parce que vous allez découvrir que, vous savez, l'enseignement, c'est pas comme la prédication. La prédication, prêcher, c'est proclamer la parole de Dieu. Quand on proclame, on va proclamer une vérité. Par exemple, on va prêcher sur la guérison. Et qu'est-ce qu'on fait? Après, on appelle les gens et on prie pour que les gens reçoivent la guérison. Et après, les gens repartent. Et quand ils ont la foi, ils sont guéris. On prêche sur le baptême de l'Esprit, par exemple. On prie pour les gens, ils reçoivent. Voyez. Donc, la prédication appelle une réponse immédiate au message qu'on va entendre. Un enseignement, c'est pas la même chose. Un enseignement, ça se construit. C'est comme une maison qu'on va construire. Vous voyez, on va mettre des fondations dans une maison. Une maison, tu la commences pas par un toit, tu la commences par quoi? Par des fondations. Tu commences d'abord à creuser. Une fois que tu as les plans et tu commences à mettre les fondations, puis après tu vas monter les murs, et puis après tu vas continuer un peu l'intérieur, et puis tu vas mettre le toit, et puis tu vas faire les finitions. Voilà. Et c'est la même chose pour l'enseignement. Donc, dans cet enseignement, il va y avoir toute une progression. Je vais vous expliquer des choses à propos du leadership et vraiment comment vous pouvez entrer et devenir un leader selon le cœur de Dieu. Parce que malheureusement, quand nous voyons le leadership, très souvent, les chrétiens cherchent une image. Vous savez, on cherche à reproduire ce qu'on a vu. Dans la vie, partout, nous avons besoin de modèles. Et très souvent, il est triste de voir que les chrétiens prennent des modèles païens pour s'en inspirer, malheureusement. Trop souvent. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un, par exemple, qui a une grosse bagnole, qui a une entreprise, ou qui s'est construit un super hôtel, ou qui a énormément de richesses, et on va dire, oui, celui-ci, il a réussi, mais... Et on sait que le mais veut dire beaucoup de choses derrière. Le mais, c'est qu'il a écrasé tous ses concurrents. Le mais, c'est que souvent, il a fait de la corruption pour arriver à ses fins. Le mais, c'est que même il a écarté une partie de sa famille et puis il a bouffé tout le reste et c'est à partir de ça qu'il a créé son succès, entre guillemets. Vous voyez, souvent, on va voir la réussite des gens parce qu'on va voir que Dieu est un Dieu de réussite. Hein. Il faut arrêter de penser que Dieu est un Dieu d'échec parce que ça, c'est un problème qu'on a. La culture de la médiocrité chez les chrétiens, c'est quelque chose qui s'est professionnalisé. C'est triste à dire. Et Dieu ne nous appelle pas à être médiocres. Dieu nous appelle à réussir. On va le voir dans l'Écriture d'ailleurs. Et malheureusement, souvent, on a des modèles de leadership qui sont mauvais devant nous et on a tendance à vouloir plus ou moins reproduire ces choses-là. Ça s'appelle la mentalité du monde. Il existe un excellent leadership selon le caractère de Dieu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est notre modèle. Donc cet excellent leadership, selon le cœur de Dieu, nous allons le découvrir. Nous allons découvrir qu'il y a des lois pour être leader. Il y a vraiment des choses que nous devons faire, dans lesquelles nous devons entrer pour devenir d'excellents leaders. Le leadership, nous le verrons, c'est quelque chose qui n'est pas inné en nous. C'est pas quelque chose que tu vas d'un seul coup découvrir du jour au lendemain, où tu vas être là, tu vas te lever un bon matin et tu vas dire « Ah, maintenant, je sais comment diriger les choses ». Ça marche pas comme ça. Par contre, c'est quelque chose que tu vas découvrir qui est en toi. On va voir que partout, il y a des principes de leadership dans notre société. Partout. On va découvrir ça. Et on va découvrir aussi que cette graine de leadership qui est en toi, il va falloir la travailler, la cultiver, la développer. Et c'est ce que nous allons découvrir au travers de ce cours. Alors, dans ce cours, donc, je vais vous expliquer. D'abord, on fera une introduction, c'est très clair. On verra les lois, les différentes lois, selon le cœur de Dieu, qui nous permettront de devenir un excellent leader. Ça, c'est très important. On découvrira, par exemple, la loi du couvercle. On découvrira la loi de l'influence, du processus, de la navigation. La loi de celui qui devient quelqu'un qu'on écoute, la solide fondation, la loi du respect, l'intuition, le magnétisme, la connexion, je vous les donne comme ça, mais on les étudiera très largement, c'est pas la peine de prendre là tout de suite des notes. L'entourage proche, la montée en puissance aussi, nous verrons cela, la loi de la reproduction, la loi du don de soi, la loi de la victoire, la loi du mouvement ou du momentum, ce qu'on appelle, la loi de la priorité en ordre, la loi du sacrifice, la loi du bon timing, la loi de la croissance explosive, et nous verrons aussi une dernière loi qui sera la loi de la succession. Donc on va étudier toutes ces lois, les unes après les autres. Mais d'abord, dans la leçon numéro 1, nous allons voir qu'est-ce que le leadership. Donc leçon numéro 1, qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce que le leadership? On va repartir avec des bases, et on va voir ce que Dieu nous dit à propos du leadership, puis on va se poser un certain nombre de questions. Parce que parfois les gens, on leur parle de leadership, et puis bon, finalement ils disent « oui, mais moi, je suis le dernier d'une famille ». Donc, le leadership, je ne vois pas trop en quoi ça me concerne. Tu vas voir que dans ta vie, ça va te concerner. Tu vas découvrir. La première chose que nous allons voir, c'est que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit leader. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit leader, pour qu'il domine. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. On va regarder un texte dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse 1, versets 26 à 28. Et Dieu dit dans sa parole, Genèse 1, 26 à 28, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il quoi ? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc Dieu dit dans sa parole quoi ? Il crée l'homme, pourquoi ? Pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Dominer quoi ? Dominer les circonstances. Et aussi diriger d'autres personnes. D'autres personnes qui ont besoin d'être dirigées et qui après elles-mêmes vont devenir des personnes qui dirigent, des leaders aussi, qui vont se reproduire en toi. Alors, qu'est-ce que le leadership ? Le leadership, ça vient d'un mot anglais, donc leadership. Notez que le leadership tend à définir une capacité. Le leadership tend à définir une capacité, comme beaucoup de choses, va être à développer. Vous savez, Dieu nous fait des dons, et Dieu veut que nous apprenions à développer ces dons. Quand Dieu vous fait un don, quel que soit le don que vous avez, dans le naturel ou dans le spirituel, vous avez toujours une part à développer ce don. Dieu ne vous donne jamais un don à maturité. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aussi. Ils pensent qu'ils vont recevoir un don de la part de Dieu et hop, tout va se faire tout seul. Non. Le don est un outil. Cet outil est entre tes mains et tu dois apprendre à développer cet outil. À développer ce que tu reçois de la part du Seigneur. Alors, chacun de nous, il y a un leader potentiel. Peut-être que tu es très jeune, tu ne le vois pas encore, peut-être, ou peut-être que tu as déjà un certain âge et que tu t'aperçois que tu as certaines responsabilités et tu n'assumes pas tes responsabilités. Et il y a des raisons à cela, que tu vas découvrir d'ailleurs dans le leadership. Parce qu'on va voir que le leadership nous concerne absolument tous. Ce n'est pas une espèce de, je dirais, un truc à la mode. Non, absolument pas. Le leadership, Dieu en parle. On va voir d'ailleurs que dans la Trinité, il y a un leadership. Nous verrons que partout, dans la société, dans le monde invisible comme le monde visible d'ailleurs, il y a du leadership. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et dans le leadership, il doit y avoir un ordre. Un ordre qui se crée. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre les principes divins du leadership. C'est très important. C'est pour ça aussi que je tiens à vous dire, là, vous allez avoir des enseignements. ça va être la partie, je dirais, académique, entre guillemets. Ce n'est pas parce que vous aurez eu cet enseignement que vous allez devenir un leader. Vous aurez de quoi réfléchir sur votre futur leadership ou sur votre leadership actuel pour changer les choses. Moi, je suis un petit peu... Je vois, au niveau du leadership, vous savez, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui font des séminaires sur le leadership, ils vous donnent un certificat et ils vous disent, voilà, nous avons formé 250 leaders en 3 semaines. Mais non, on ne forme pas un leader en 3 semaines. On forme un leader pendant des années et des années et des années et des années. Ça prend du temps. Nous parlons de ce qu'on appelle du mentoring. Ça, c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui est là et qui vous encadre et qui, au bout d'un moment, vous voit suffisamment maturé et vous commencez à prendre votre envol par vous-même. Mais entre-temps, vous avez eu besoin de quelqu'un qui vous a encadré, qui vous a mentoré, comme on dit si bien au niveau du terme anglophone. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions, nous les chrétiens, le réel leadership selon son cœur. Pourquoi ? Parce que nous devons avoir de l'influence. Dieu m'a énormément parlé à propos de l'influence, ces dernières années particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, ils ne comprennent pas très bien. Ils sont là, ils prient. C'est bien, la prière a son rôle, mais l'influence est quelque chose de très important. Si toi-même, tu es influencé par le royaume de Dieu, et que nous sommes beaucoup dans une nation à être influencés par le royaume de Dieu, c'est la nation entière qui est influencée par le royaume de Dieu. Les gens prient des choses assez bizarres sur les nations aujourd'hui. J'ai beaucoup d'enseignements là-dessus, je ne veux pas trop, enseigner là, parce que ça demande vraiment toute une construction par rapport à ça. Mais nous avons, comme je le disais hier, pour ceux qui étaient là, une alliance individuelle, en tant qu'individu. Maintenant, toi, si tu es influencé par le royaume de Dieu, c'est-à-dire si tu comprends réellement le royaume de Dieu, comme Jésus exerçait les lois du royaume de Dieu, eh bien, tu vas influencer le domaine, ce qu'on appelle ton territoire de destinée, c'est-à-dire là où Dieu t'a placé particulièrement avec ce que le Seigneur a comme destinée pour ta vie, c'est-à-dire le plan que le Seigneur a pour toi. Parce que rappelez-vous que la parole de Dieu nous donne l'héritage commun que nous avons tous. C'est-à-dire le plan du salut, le baptême de l'esprit, la guérison divine, la prospérité, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de notre héritage commun. Maintenant, Dieu a une destinée particulière pour ta vie. Il a un plan particulier pour ta vie que tu vas trouver, que tu vas chercher alors que tu es dans sa présence et tu dis, Seigneur, quelle est ma destinée ? À quoi me destines-tu, Seigneur ? Et quand tu commences à découvrir ces choses, Dieu va te donner une vision pour ta vie. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir des chrétiens qui n'ont aucune vision, qui se lèvent le matin et ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Le sentiment d'inutilité parmi les chrétiens est quelque chose de très fort. Et nous ne sommes pas appelés à être des gens inutiles. Nous sommes appelés à être des gens utiles pour le royaume de Dieu. Maintenant, il va falloir que tu te rendes utile selon la destinée que le Seigneur a pour toi. Tu vas voir que ce que tu vas créer dans ta vie par rapport au plan de Dieu, c'est de ta responsabilité. Il y a trop de chrétiens qui s'assoient et qui attendent. Ils attendent, ils prient, ils attendent, ils prient, ils attendent. Il y a un moment pour prier, mais il y a un moment aussi pour se lever. Il y a un moment pour agir selon ce que le Seigneur nous a montré. Il y a un moment aussi pour être transformé, pour passer du temps, pour être influencé par lui, par rapport à sa présence, par rapport à sa mentalité. Là, nous parlons de mentalité. Parce que je vous rappelle que les 3 maladies dont les chrétiens doivent guérir, entre autres, c'est leur mentalité. Ta mentalité doit être transformée. Et elle peut être transformée, c'est ce que la Bible appelle dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Ça aurait été mieux traduit par mentalité, parce que intelligence, pour nous, ça, être intelligent, ça signifie un certain nombre de choses, surtout académiques. Alors que Romains 12, verset 2, nous dit être transformé par le renouvellement de nos mentalités. C'est ça qui est important. Tu seras transformé quand ta mentalité est transformée. Et pour que ta mentalité soit transformée, tu as la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Christ. Et c'est important de comprendre ça. Plus tu es transformé à l'intérieur, plus à l'extérieur, tu vas transformer tes situations. Et plus nous sommes à transformer nos situations, à être des exemples de Christ, plus le royaume de Dieu est influent. Plus le péché recule, plus les esprits sataniques reculent, plus nous pouvons amener la présence de Dieu dans des endroits et amener la gloire de Dieu dans les différents pays dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, au Congo, on me dit, il y a quoi ? Il y a 40% de protestants, c'est ça, ou 60% ? Je ne sais plus, il y a des statistiques gigantesques. c'est le pays francophone le plus chrétien. Oui, mais c'est le pays aussi francophone presque le plus en désordre. Réfléchissez un peu. Ici, au Congo, vous avez vraiment besoin d'élever le leadership chrétien. Le problème du Congo n'est pas un problème de richesse. Vous êtes le pays quasiment le plus riche, même vous êtes le pays le plus riche d'Afrique, dans le sous-sol. Ce n'est pas un problème. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est un problème de leadership. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays aujourd'hui, où nous sommes, c'est un problème de leadership. Ce n'est pas un problème de richesse, ce n'est pas un problème d'ancienne colonisation, ce n'est pas un problème de tous les blâmes, d'ailleurs on en parlera justement de ça, qu'on peut amener en disant « nous sommes comme ça aujourd'hui parce que voici ce qui s'est passé ». Le problème du Congo aujourd'hui, numéro un, c'est que nous manquons de chrétiens de conviction qui se lèvent en masse et qui disent « nous allons transformer cette nation ». Que quelqu'un dise « amen » ou alors je vais partir. Réfléchissez à ce que je vous dis, c'est important. C'est très important. Le problème n'est pas, je dirais, l'évangélisation. Vous avez plein de chrétiens. Les églises sont bourrées ici, de partout. Mais quel est l'impact aujourd'hui de nos églises? L'impact de l'église, c'est quoi aujourd'hui? Pose-toi la question. L'impact économique, l'impact social, l'impact aussi dans les positions diverses du gouvernement. Parce que, sachez une chose, quand vous avez un leader qui est vraiment enraciné en Christ, qui écoute le Saint-Esprit, et qui n'est pas en train de faire des discours « Jésus ceci, Jésus cela, prions pour ceci, prions pour cela », en train de mélanger les affaires de l'État et le christianisme, quand vous avez un leader qui sait écouter et qui sait appliquer les solutions divines aux problèmes humains, eh bien, il y a une influence qui se crée dans une nation. Et dites-moi, une nation, elle est habitée par qui? Elle est habitée par des habitants, par des êtres humains. Une société, c'est fait par qui? Par qui est faite la société? Par les êtres humains? Oui ou non? Apparemment, vous n'êtes pas là ce matin. La société est faite par qui? Elle est faite par les montagnes? Elle est faite par les lacs? Elle est faite par les fleuves? Non, elle est faite par les habitants. Et quand les habitants prennent leurs responsabilités, surtout les chrétiens nés de nouveau, ils peuvent transformer les choses. On s'est trouvé beaucoup d'excuses, mais le leadership est quelque chose d'important. Quelqu'un qui est leader et qui est influencé par le royaume de Dieu amènera l'influence du royaume de Dieu là où il est leader. C'est très important. C'est dans le business. On a laissé tout ça de côté. On a laissé le business aux païens. On a tout laissé aux païens. Et on dit, mais oui, on souffre parce qu'on a tout le temps des gens qui nous dirigent, qui sont païens. Oui, mon patron est méchant. Ok, bah deviens patron. Deviens patron. Mais pour ça, il va falloir que tu changes ta mentalité. Il va falloir que tu changes ta mentalité. Les gens qui restent dans des mentalités du désert, où on se plaint tout le temps, ce sont des gens qui ne verront jamais aucun changement. La destinée, ta destinée est entre tes mains. Tu vas me dire, non, elle est entre les mains de Dieu. Oui, elle est entre les mains de Dieu, mais tu as une part à jouer. Quand je dis elle est entre tes mains, c'est la part que tu as à jouer qui est importante. Et malheureusement, souvent, les chrétiens se réfugient. Ils sont dans la prière, ils sont dans le machin, ils sont dans le truc. Okay. Tout ça, c'est bien. Mais le fruit de la prière, moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, les gens qui prient toute la journée, moi, j'en suis gavé de ces gens-là. Je tiens à le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'influence du royaume de Dieu au travers de leur prière. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas des gens qui prient, qui te racontent qu'ils se lèvent à 6 heures du matin et qui prient. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a comme fruit? Sinon, ça veut dire que c'est pas de la prière. Pour moi, c'est du baratin. Pour moi, c'est du blabla. Si quelqu'un a une position de leadership quelque part, s'il n'est pas capable de transformer le département là où il est leader, c'est qu'il a un problème. S'il fait comme les païens, si au bout de quelques années, on s'aperçoit que finalement, il fait pas mieux qu'un païen, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dites-le-moi. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de nos destinées. Si Dieu te parle, c'est pas pour te dire des jolis mots. C'est parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut que tu rentres dans la vision prophétique qu'il te donne. Chacun d'entre vous, vous avez des rêves, vous avez des visions. Mais je vais vous dire une chose, ça ne s'accomplira jamais, jamais, si vous ne jouez pas votre part. J'ai vu des gens enterrés avec des belles visions. Des gens qui vous disaient, et c'était clair, le Seigneur leur avait parlé des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, ils sont dans la tombe. C'est dans les cimetières où il y a les plus grandes visions qui sont enterrées, où il y a les plus grandes richesses de la terre. Parce que la majorité des gens ont été enterrés avec quoi ? Avec des visions qui venaient du ciel. Mais ils ont été incapables d'implémenter cette vision dans leur vie, c'est-à-dire de l'amener à la réalité. Il y a une grande différence, un grand fossé que je vois entre les gens qui reçoivent des choses de Dieu. Il y a des gens, ils disent n'importe quoi, ils disent Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a rien dit. Mais je parle de ceux qui ont vraiment reçu des choses du Seigneur. Ceux qui reçoivent des choses. Et le Seigneur leur a confirmé clairement. Et le fait d'amener ces choses qu'ils ont reçues à la réalité. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas ce que Dieu te dit qui est important. Comprenez-moi bien dans ce que je vais dire ici. C'est la façon dont tu vas réaliser ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui est important. L'important, c'est pas la parole du Seigneur seulement. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec la parole du Seigneur. Parce que Dieu révèle. Dieu parle à ses enfants. Dieu donne des destinées à ses enfants. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Et ça, c'est un des problèmes que je vois beaucoup dans le corps de Christ. Des gens qui vont vous dire, « Pasteur, le Seigneur m'a dit que... » Le Seigneur, je dis, « Ok, gloire à Dieu !» Mais je dis maintenant, comment tu vas implémenter cette vision? Comment tu vas prendre tes responsabilités? Le Seigneur m'a dit que je serai un grand serviteur. Ben, gloire à Dieu! Bienvenue dans les persécutions. Bienvenue dans les difficultés. Ça, les gens, ils n'aiment pas. Parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de choses dans le leadership. Mais ce que tu reçois du Seigneur, ça ne se passera pas par hasard. Tu as un rôle à jouer qui est important. Il y a la collaboration avec Dieu. Trop de gens laissent Dieu, disent Dieu doit faire, Dieu doit faire, Dieu doit faire. C'est bien gentil ça, mais Dieu ne fera pas tout seul sans ta collaboration, sans ta foi, sans l'implémentation de la vision. Et pour ça, tu as besoin du caractère de Dieu au niveau du leadership. Tu n'accompliras jamais aucune vision sans avoir le caractère de Dieu au niveau du leadership. Regardons ensemble Colossiens 1, verset 16. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent des hiérarchisations, du leadership. Colossiens 1, 16. La Bible nous dit la chose suivante. Colossiens 1, 16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Vous avez peut-être d'autres mots ici, mais ce n'est pas grave. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans le monde invisible et visible, il y a des hiérarchies. Il y a une hiérarchisation. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dieu est un Dieu de leadership. Partout, nous allons le voir brièvement, il y a une hiérarchisation. Voulu par Dieu, une organisation divine, un ordre divin. Quand Dieu a créé le monde invisible et le monde visible, tout était parfaitement ordonné. Qu'est-ce qui a mis le désordre ? Le péché. Le péché a mis le désordre. Mais, au départ, tout était parfaitement organisé et hiérarchisé. Dans la Trinité, par exemple. Dans la Trinité, vous avez Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus dira clairement qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de qui ? De celui qui l'a envoyé. Tout ce que le Fils voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Si vous n'appelez pas ça de l'ordre et de la hiérarchisation, dites-moi, qu'est-ce que c'est d'autre ? Et de la soumission. À partir du moment où il y a de la soumission, il y a du leadership. Vous êtes d'accord ? Dans la Trinité, il y a une hiérarchisation. Il y a une soumission les uns aux autres. C'est très clair dans la parole de Dieu. On pourrait faire toute une étude là-dessus, mais c'est très clair. Dans la Trinité, le Père planifie. Le rôle du Père, c'est de planifier. Dieu est un architecte. Dieu avait planifié la création. Le Fils est venu exécuter selon les plans du Père. Parce que dans la Trinité, le Père planifie. Notez ça quelque part, ça va vous aider pour mieux comprendre la Trinité, parce que là aussi, il y a une incompréhension totale de beaucoup de chrétiens. Le Père planifie. Le Fils exécute, le Père planifie, le Fils exécute, et le Saint-Esprit révèle. Il révèle les choses. Donc le Père planifie, le Fils exécute, et le Saint-Esprit révèle. Ça a été le cas dans la création. Dans la création, le Père a planifié, le Fils a exécuté, il a créé toutes choses, au travers du plan du Père. Et qu'est-ce qui a amené à l'existence les choses ? Par quelle puissance ? Par la puissance du Saint-Esprit. La même chose pour le plan du salut. Dans le plan du salut, qu'est-ce qu'il y avait? Le Père a planifié le plan du salut. Il est dit dans Isaïe, « Qui enverrai-je ? » Le Fils a dit, « Me voici, envoie-moi. » Donc le Père a planifié, le Fils a exécuté, et la puissance du Saint-Esprit a révélé. Par exemple, la conception miraculeuse de Jésus. C'était une action du Saint-Esprit. La résurrection d'entre les morts, c'était une action du Saint-Esprit. C'était le plan du Père, le Fils a exécuté la volonté du Père, mais le Saint-Esprit a révélé les choses et a ressuscité Christ d'entre les morts. Il y a une hiérarchisation dans la Trinité, dans la création angélique. Il y a absolument une hiérarchisation. Nous voyons très bien les chérubins, les séraphins, les archanges et les anges. D'ailleurs, dans le mot archange, littéralement, le mot archange vient de deux mots grecs, de arché et angelos, qui veut dire quoi? Arché, ça veut dire chef, littéralement. Chef des anges, c'est ça que ça veut dire, archange. Chef des anges. Il y a une hiérarchisation. Partout avec Dieu, il y a une hiérarchisation. Dieu a voulu la hiérarchisation. Alors, quand on voit aussi à propos du monde visible, vous savez que c'est Dieu qui a voulu les nations? Oui, Dieu a voulu les nations. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Là aussi, il y a tout un enseignement là-dessus. Mais dans les gouvernements, il y a une hiérarchisation. Et c'est voulu par Dieu, absolument. Absolument. Parce qu'il faut quelqu'un qui dirige. Dans l'Église, il y a une hiérarchisation. Le pasteur est celui qui a l'onction. Le pasteur, dans 1 Corinthiens 12, c'est l'équivalent du gouverneur. Le pasteur est un gouverneur. Il gouverne sur le peuple de Dieu, que Dieu lui a confié. Quand on fait une étude sur les ministères, le pasteur a le rôle de gouverner, de diriger. C'est le berger. C'est le berger. Le sous-berger du grand berger des brebis, précisément. Dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchisation dans la famille? Qui est le leader? Le mari. La Bible est claire là-dessus. Femmes, soyez soumises à qui? À vos maris. Bien sûr, ça doit être créé dans l'amour. On est bien d'accord. Mais dans la famille, il y a aussi du leadership. Partout où vous allez, il y a du leadership. Partout, partout, partout. Au travail, il y a toujours un responsable. D'abord, il y a un patron. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas de patron, ça serait l'anarchie, ça serait le désordre. Il y a aussi des chefs de département, des directeurs. Tout ça, ça fait partie du leadership. Partout où on est, il y a quelque chose, quelqu'un qui est en charge. À l'école, par exemple, eh bien, il y a le maître de la classe, il y a le professeur, qui, lui, est responsable de sa classe. Il y a le directeur de l'école, etc. Partout, partout, partout. Si tu es le fils aîné ou la fille aînée, tu es un leader, en général, sur tes petits frères et tes petites sœurs. Partout, 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 il y a du leadership. Le jour où tu vas devenir mari, tu vas être leader. Tu vas être leader. Donc, partout, il y a du leadership. C'est obligatoire. Alors maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse à propos de ce texte de Romains 13 qui est extrêmement mal compris. Romains 13. Romains chapitre 13, à propos de l'autorité. Je suis obligé de faire ces parenthèses parce que ça va introduire mon sujet, je suis toujours dans l'introduction. Romains 13, verset 1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Regardez bien verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à quoi? À l'ordre de Dieu. Tout le monde dit l'ordre de Dieu. Ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, on va lire aussi oui, les versets suivants, ça va nous aider à comprendre. Les gouvernants ou magistrats, ne sont pas à craindre, verset 3, quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4, regardez bien, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois sans crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. C'est-à-dire qu'elle envoie, elle juge les gens. Étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Alors quand nous lisons un tel texte, souvent les chrétiens, ben, ils ont des points d'interrogation. Et c'est normal, parce que souvent ils interprètent ça d'une mauvaise façon. Je vais vous dire des choses et j'aimerais que vous les compreniez bien. Et je vais vous les éclairer à la lumière de l'histoire de l'humanité. À la lumière de l'histoire de l'humanité. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme devait se reproduire et au niveau leadership, tout dépendait de Dieu. Tout dépendait de Dieu. Maintenant, Dieu avait institué la famille. Puisque Dieu a parlé à Adam en disant l'homme quittera donc son père et sa mère, etc., et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc déjà, la hiérarchie familiale était instituée par Dieu dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève vont pécher, tout va être mis dans le désordre. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devenir la propriété du diable. Et vous savez, il n'y a pas plus désordonné, plus bazarique, plus méchant, plus voleur, plus pilleur que le diable. C'est très clair. Donc, d'un seul coup, ils se sont retrouvés à devenir les fils et les filles du diable. Et il y a eu un désordre total. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils se sont reproduits. Et vous avez vu que déjà, avec leurs enfants, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a un qui a tué son frère. Caïn va tuer Abel. Désordre total. Ensuite, les hommes vont se reproduire. Quand vous lisez le début de l'histoire de la Genèse, qu'est-ce qui se passait ? C'était ce qu'on appelle l'anarchie. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir chez n'importe qui, tuer tout le monde, piller tous ses biens et repartir sans être inquiété. Lisez le début de la Genèse. Dieu a dû envoyer le déluge après, à cause de ça entre autres. La méchanceté des hommes. Il n'y avait pas de pays à l'époque. Chacun vivait selon les pensées de son cœur. Et comme il appartenait au diable, évidemment, les pensées de son cœur, ce n'était pas génial. Et tout de suite, rapidement, les hommes se sont entretués. Les hommes se sont pillés les uns les autres. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de nation. Il n'y avait pas de protection. Vous savez, Abraham, quand il a quitté la maison de son père, il a pris beaucoup de risques. Abraham vivait dans une des rares villes. Abraham a vécu environ 1950 ans avant Jésus. 2000 ans avant Jésus environ. À l'époque, en Mésopotamie, donc du côté de l'Irak, il n'y avait pas d'organisation. C'était juste des villes protégées où les gens vivaient dans quelques villes. C'était très rare. On a retrouvé des vestiges qui sont très anciens et c'était très rare, juste selon le long de le fleuve, du fleuve Euphrate. Et le reste, c'était des populations nomades qui vivaient avec quoi ? Qui vivaient sous des tentes. Mais vous pouviez, pendant la nuit, avoir des groupes de pillards qui venaient et qui tuait tout le monde, qui massacrait tout le monde, qui violait les femmes, qui tuait les enfants, qui tuait les hommes, qui pillait tout, qui ravageait tout, qui mettait le feu et qui partait. Et ces gens-là n'étaient absolument pas du tout inquiétés. Les premiers hommes vivaient comme ça, sans autorité, sans gouvernement. Dieu envoie le déluge, parce qu'il veut vraiment faire du nettoyage parmi les hommes. Puis la race humaine recommence avec Noé. Et rapidement, qu'est-ce que l'homme fait ? Babel. Babel, Genèse chapitre 11, vous trouverez cela. Les hommes font quoi ? Ils se liguent en un gouvernement mondial. À l'époque, ce n'était pas très étendu, c'est vrai. Mais c'était tous les hommes ensemble, avec une seule langue. Et ils se liguent contre qui ? Contre Dieu. Dieu n'a jamais voulu un gouvernement mondial. Pourquoi ? Parce qu'un gouvernement mondial, s'il a à sa tête un groupe de gens qui sont agité par le diable, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont empêcher ceux qui veulent croire en lui de pouvoir croire. Ils vont les tuer et ils vont essayer d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Un des grands rêves du diable qu'il essaiera de réaliser pendant les 7 ans de tribulation, c'est d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Ça, c'est un de ses grands rêves. Enfin, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer là, mais c'est un de ses grands rêves. Donc, à partir du moment où les hommes sont ensemble, se liguent contre Dieu, qu'est-ce que Dieu fait ? Il va confondre quoi ? Les langages. Et les hommes ne vont plus se comprendre. Ils vont se séparer et c'est là où il va y avoir des nations qui vont commencer à se créer. Quand ici il est dit que toute autorité vient de Dieu, ont été instituées par Dieu, ce n'est pas le bonhomme que Dieu met en place. Ça a été le système de gouvernement qui est un système de gouvernement que nous connaissons encore aujourd'hui, C'est-à-dire, à la tête, avant il y avait des rois, maintenant nous avons des présidents élus. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu démocratique. Vous savez ça ou pas? Soyons clairs. La démocratie est un moindre mal pour les populations, parce qu'elle donne un peu plus de justice entre les hommes. Mais Dieu n'est pas un démocrate. Vous savez, dans le ciel, il y a deux choses que vous ne trouverez jamais. Un bureau des plaintes pour les chrétiens et une assemblée nationale où on vote les lois de Dieu. Soyons clairs, Dieu est un théocrate. Dieu dit, c'est comme ça, soit tu obéis, soit tu désobéis. Mais il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation avec le douanier. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Dieu est un théocrate. La théocratie, c'est Dieu qui dit, on fait comme ça et on ne fait pas autrement. C'est comme ça, j'ai dit c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation avec Dieu. Dieu est un théocrate. Quand Israël a demandé un roi, Samuel était vexé. Il disait, tu vois, Seigneur, il demande un roi. Il veut être comme les autres nations. Et Dieu lui dit, mais tu sais, Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Parce que les Israélites n'avaient pas compris le royaume de Dieu. Ils n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris la théocratie. Dieu, un jour, reviendra régner avec nous. Et là, il y aura un vrai gouvernement mondial, entre autres dans le millénium. Mais là, la terre connaîtra une prospérité pendant le millénium absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la terre aura le meilleur des gestionnaires. Aujourd'hui, la terre est dans un bazar. Pourquoi? Parce qu'elle a le pire des gestionnaires, qui s'appelle le diable. C'est pour ça que la terre est dans un tel désordre. C'est pour ça qu'il y a des famines, c'est pour ça qu'il y a des injustices, c'est pour ça que les gens se bagarrent, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a le pire des gestionnaires. Adam et Ève lui ont légué le contrat de gestion sur la terre. Parce que c'était les hommes qui devaient gérer la terre au travers de la théocratie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Dieu a dû instituer de quoi? Des gouvernements. Donc des hiérarchisations. Vous allez me dire, oui, on voit pas le meilleur. Tout à fait. Parce que cette hiérarchisation, Dieu l'a voulu simplement pour limiter le péché. Vous voyez, quand la Bible dit que le magistrat est au service de Dieu, il y a dans notre traduction, il est serviteur de Dieu, ça nous met un peu dans la confusion. Parce qu'on se dit, ça veut dire que le magistrat a été placé lui-même nominativement par Dieu. Non, c'est pas ça que la Bible dit ici. La Bible dit que dans chaque pays, en fait, il y a des institutions qui permettent de limiter, je dis bien limiter le péché. Ce sont des institutions qui ne sont pas du tout justes en général. Elles essayent de faire ce qu'elles peuvent. Mais aujourd'hui, par exemple, on parle des droits de l'homme qui sont bafoués dans beaucoup de pays. Mais je dirais quand même, il y a une conscientisation qu'un être humain a des droits. Qu'on ne peut pas venir et dire, tiens, je vais prendre la vie de ce monsieur ici et je vais être inquiété par personne. Il y a des lois. Il y a une hiérarchisation. Il y a une limitation du péché. Et Dieu, au travers des nations et des gouvernements, à limiter et limite le péché. Parce que avant, je vous le dis, avant cela, avant Genèse chapitre 11, n'importe qui pouvait aller chez n'importe qui, le tuer, piller, faire tout ce qu'il voulait contre lui, sans être inquiété par qui que ce soit. Donc là, Dieu a dû mettre une hiérarchisation et des gouvernements qui permettent de quoi, au travers de certaines lois, de limiter le péché. Bien sûr, ces magistrats-là, certains sont corrompus, nous le savons. D'autres sont justes, donnent de justes jugements. Mais ça limite le péché. Parce qu'avec l'inconverti, il n'y a qu'une chose qu'on peut faire, le bâton. Quand l'inconverti fait des gaffes, il faut le frapper. Et on le met en prison, on lui enlève certains de ses droits, on lui met des amendes, on le sanctionne. Pourquoi? Parce que sinon l'inconverti qui n'a pas de loi fait n'importe quoi. Et là, il y a une montée du péché. Et Dieu a limité le péché. Donc ce texte-là n'a rien à voir avec l'individu. Quand quelqu'un a une position élevée et qu'il est chrétien né de nouveau, il ne faut pas qu'il dise « Dieu a mis une onction sur moi, c'est un appel de Dieu ». Non, c'est une destinée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un appel dans le sens du ministère. Il n'y a pas de ministère de roi aujourd'hui. Il n'y a pas de ministère de ministre d'un État. Il n'y a pas de ministère de gouverneur. Par contre, il y a des destinées individuelles quand les gens comprennent le royaume de Dieu où Dieu peut amener des gens dans des positions clés pour qu'ils aient de l'influence positive. Positive vis-à-vis de ce qu'ils vont faire, des visions qu'ils vont implémenter pour aider les gens. Voilà, c'est la différence. Et ces gens-là doivent être chercher la face de Dieu pour chercher des solutions divines à des problèmes humains. Par exemple, Joseph. Juste un exemple, Joseph. Joseph avait une destinée divine. C'était d'être un leader, le fils de Jacob. C'était d'être un leader. Et cet homme a été mis au rang de la deuxième place de la nation la plus puissante du monde de l'époque, qui était l'Égypte. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a aidé l'Égypte. Pourtant, c'était des païens, des idolâtres. Beaucoup d'Égyptiens ne sont pas morts. Grâce à quoi? La destinée que Joseph a eue. Et au travers de ça, Joseph, bien sûr, a favorisé l'incubation, le territoire de Goshen, pour que les descendants de Jacob puissent avoir un territoire, se multiplier, et c'est ce qui est devenu le territoire d'Israël. Mais Joseph n'avait pas une onction spéciale, une onction royale ou une onction, de spéciale pour accomplir sa tâche. C'était un homme qui écoutait Dieu, et quand il est venu devant le roi d'Égypte, le pharaon, j'ai beaucoup aimé. Dans l'histoire de Joseph, il y a énormément d'instructions. Cet homme est venu avec des solutions pratiques. Il n'a pas dit, pharaon, tu as eu une belle vision et Dieu va faire tout ça. Amen. Il n'a pas dit ça. Il a dit, voilà, le pharaon devrait faire ça et devrait faire ça. Il a donné des conseils divins au pharaon. Et c'est lui qui a été le leader, qui a implémenté cette vision et qui l'a rendue possible. Parce que Joseph avait un caractère de leader assez exceptionnel. Nous allons d'ailleurs étudier sa vie dans les lois du leadership. Mais il faut que vous compreniez cela. Dieu ne place pas avec une onction un bonhomme ou un autre. Dieu met une destinée dans le cœur de quelqu'un et cette personne sent que c'est sa place. Elle monte dans cette place-là, mais elle n'exerce pas. Par exemple, nous, au Burundi, nous avons un président qui est sauvé. Mais en aucun cas, il exerce la fonction présidentielle avec une onction présidentielle, parce qu'il n'y a pas d'onction présidentielle, si vous regardez ça dans la Bible. C'est une destinée particulière. Malheureusement, nous voyons beaucoup de dirigeants ou de personnes qui n'arrêtent pas de mélanger tout avec l'Évangile. Ils parlent. Oui, parler est une chose, mais agir est une autre chose. Je vais te dire une chose, en tant que leader, arrête de parler de Jésus à toutes les sauces. Parce que ce qui parle le plus, ce sont tes actions, tes comportements. Beaucoup de gens, et ça c'est vraiment un reproche que je fais à beaucoup de chrétiens, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils parlent de Jésus, ils font des discours quand ils commencent à être dans des positions d'autorité. Le problème, c'est que d'abord les gens veulent voir ce que tu as dans le ventre. C'est-à-dire ce que vraiment tu vas réaliser. Le jour où tu as tellement investi chez les gens, que les gens te sont reconnaissants, là tu peux ouvrir ta bouche et dire, vous savez, toutes ces choses que j'ai faites, c'est vraiment par le Seigneur. Là tu peux ouvrir ta bouche, mais arrête d'ouvrir ta bouche avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Parce que, crois-moi, si tu n'accomplis rien, les gens vont se moquer, non pas de toi, mais ils vont se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de gens, il ferait mieux de se taire. Et d'abord, réellement, de construire quelque chose, d'aider les autres, d'investir chez les autres. Nous verrons ce que doit faire un bon leader. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des positions de chef faillon. Ils veulent être pasteur, ils veulent être prophète, ils veulent être apôtre, ils veulent être tout ce qu'on veut, ils veulent être directeur, ils veulent être patron, ils veulent être ceci et cela, mais ils en sont absolument incapables. Ce qui les intéresse, c'est la position. Et on va voir que le leadership par la position, ce n'est pas la position qui va faire de toi un vrai leader, un grand leader. C'est ce que tu as dans le ventre. Et ce que tu vas faire pour les autres. Comment tu vas les amener? Comment tu vas améliorer leur vie? Comment tu vas les amener à réaliser leurs rêves et leurs visions? Les choses que le Seigneur leur a donné de faire. Nous allons étudier la première loi. C'était juste une introduction que je vous ai faite ici. Ah oui, dernière chose. Josué chapitre 1, verset 6. Notez que la volonté de Dieu, Josué chapitre 1, verset 6, la volonté de Dieu, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions en tant que leader. Ça, c'est important à comprendre aussi. Je vais vous expliquer. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions en tant que leader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une très belle vision et ne jamais réussir. Dieu veut que nous réussissions. Je vous dis et je vous le redis, la culture de l'échec est une catastrophe dans le corps de Christ. C'est épouvantable. Nous verrons que l'important, ce n'est pas de là où tu viens. L'important, c'est là où Dieu veut que tu ailles. Et qu'un jour, ça devienne une réalité dans ta vie. Je vais vous donner des exemples. Je vais illustrer ça par beaucoup de choses dans ce cours. Là, je vous dis, c'est vraiment une introduction. Mais il y a trop de gens qui ne comprennent pas que Dieu veut qu'ils réussissent. Non pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Et vraiment la gloire du Seigneur. Je ne parle pas des gens, vous savez, qui ont une fausse humilité. Ils sont là, vous leur dites, ouais, vraiment, c'est bien ce que tu as fait. Et ils te disent, ah, c'est le Seigneur. Et puis à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est moi. Et ils se glorifient. Ça, c'est de la pourriture. Ça, c'est vraiment avoir un caractère pourri. Ça, c'est utiliser le nom de Dieu, finalement, pour te glorifier, pour te montrer. Dieu ne partage pas sa gloire. Chapitre 1, on va lire à partir du verset 6. Josué 1, verset 6 et suivant. Nous connaissons bien ces passages. Si vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez ces passages. Il est dit, fortifie-toi. C'est Dieu qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de quoi ? Réussir. Afin de réussir. Partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu méditeras la parole, jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Hein, les businessmen, tes entreprises, ça doit vous parler. C'est alors que tu quoi ? Tu réussiras. Tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Donc Dieu lui dit quoi en gros ? Dieu lui dit, bon ok, il y avait un très grand leader, c'est Moïse. Vous savez, quand vous prenez la succession du plus grand leader de l'Ancien Testament, vous avez intérêt à faire attention. Parce que vous savez, quand vous prenez la suite de quelqu'un, si vous n'êtes pas plus brillant que cette personne, les gens vont parler sur vous. Et ils vont se lamenter, ils vont dire, ah, du temps de Moïse, c'était comme ça et comme ça et comme ça. Mais vraiment, du temps de Josué, ce n'est pas génial. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'esprit de comparaison. Quand vous prenez la succession d'un leader, vous avez intérêt à aller plus haut. Vous avez intérêt à réussir. Dieu veut que nous réussissions. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Dieu ne te parle pas pour quelque chose, pour que tu échoues. Et nous verrons qu'il y a beaucoup de chrétiens, justement, qui ont cette culture de l'échec, qui prient pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et le jour où ils sont vieux, ils ont toujours échoué. Quand on fait un bilan, ce n'est pas un bilan qu'on fait, c'est un dépôt de bilan. Pour ceux qui ont des sociétés, vous savez ce que ça veut dire. Un dépôt de bilan, ça veut dire que tu as fait faillite. Est-ce que ta vie est une faillite, mon frère ? Eh bien, si c'est une faillite, tu peux changer les choses. Et tu vas devoir. Dieu lui dit, tu as ta part à jouer. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Tu dois méditer la parole. Tu dois acquérir ma mentalité. Et si tu acquiers ma mentalité et que tu mets ça en pratique, alors tu réussiras. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Éradiquez de vos mentalités que Dieu vous veut dans l'échec. Si tu échoues quelque part, dis-toi bien une chose, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui permet ça. Ça, c'est des prières stupides. C'est des excuses inacceptables. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Oui, il y a des obstacles. Ok, on va voir comment lever des obstacles. Il va falloir que tu apprennes à prendre ces choses en face, tes responsabilités en face. Trop de chrétiens ne prennent pas leurs responsabilités et ne font strictement rien. Dieu veut, en tant que leader, où que ce soit, où que tu sois placé, que tu commences par un leadership qui est très petit, peu importe. Quelque part, tu es leader. Le leader que tu es d'abord, c'est sur toi-même, sur ton corps, sur ta propre vie. Parce que sachez une chose, vous n'êtes plus propriétaire de votre vie, mais vous êtes gestionnaire de votre vie. Ouh, ah oui, tu n'es plus propriétaire de ta vie, mais tu es gestionnaire de ta vie. Et un gestionnaire, on demande quoi à un gestionnaire ? Des quoi ? Des comptes. C'est biblique, c'est pas moi qui l'invente. Tu n'es plus propriétaire, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, tu es gestionnaire de ta vie. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ta vie, tu vas en avoir une responsabilité. Si tu réussis, tu as une responsabilité pour réussir. Dieu lui disait, fortifie-toi, prends courage. Il y a ma parole, il y a ma mentalité. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Josué ? Prends-le, médite-le, imprègne-toi de ma mentalité et réussis. Voilà ce que Dieu lui disait. Parce que mon objectif, sous-entendu, Dieu disait ça à Josué, mon objectif, c'est que tu réussisses. J'ai un plan, j'ai une destinée pour ta vie, Josué. Tu vas prendre la suite de Moïse. Ok, maintenant, tu dois réussir. Et pour réussir, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu œuvres. Il va falloir que tu te fortifies. Il va falloir que tu marches dans ma parole. Il va falloir que tu changes tes mentalités. Que quelqu'un dise amen. Nous avons, frères et sœurs, cette responsabilité par rapport à ce que Dieu nous donne. Ne pense pas que les choses se feront par hasard. Ne pense pas que les autres ont de la chance. Parce que la chance n'existe pas avec Dieu. Mais il y a des choses, des lois qui déclenchent un certain nombre d'actions divines dans nos vies. Il y a un certain nombre de lois qui déclenchent des choses qui nous permettront de réussir. Et si ces lois-là, vous ne les connaissez pas ou vous ne les appliquez pas, eh bien vous allez échouer. Je tiens à vous le dire. Moi, j'ai beaucoup médité sur ces choses. Je me posais la question, alors que j'étais au Burundi, j'étais là, il y avait des moments extrêmement difficiles. On est passé par des choses extrêmement, extrêmement difficiles. Et je disais, mais Seigneur, quelles sont les clés pour que ça puisse percer? Quelles sont les clés pour que l'Église puisse vraiment se multiplier? Quelles sont les clés, Seigneur, pour qu'on puisse toucher des personnes qui ont de l'influence? Dieu a commencé à me parler sur beaucoup de choses par rapport à ça, que je n'avais pas comprises. Parce que j'étais dans le ministère depuis quelques années, et je n'ai jamais eu personne, j'ai jamais eu un pasteur qui m'a pris sous son aile et qui m'a formé. J'ai jamais eu ça, moi. Je me suis retrouvé tout seul, dans le ministère. Et évidemment, quand on est seul dans le ministère, eh ben, on se débat avec les problèmes, avec des choses qu'on ne connaît pas. Des choses auxquelles on a à faire face qu'on n'imaginait même pas qu'elles seraient là. Parce que vous savez, quand Dieu nous parle, on pense qu'on va réussir automatiquement mieux que les autres. Et ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu doit briser ça en nous. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler sur certains principes. Il a commencé vraiment à montrer les lois du royaume de Dieu. Qu'il y avait des lois. Des lois et des mécanismes qui pouvaient déclencher un certain nombre de choses dans nos vies. Que Dieu voulait que l'on mette en action. Il y a beaucoup de lois. Nous sommes dans un royaume. Il y a des lois. Ne dis pas « je suis sous la grâce ». Oui, tu es sous la grâce pour ton salut. Mais tu es sous des lois spirituelles de par le fait que tu appartiens à Dieu et à son royaume. Mais maintenant, regarde, tu as des lois spirituelles parce que tu es dans le royaume de Dieu. Mais d'un autre côté, tu n'es plus du monde, mais tu es dans le monde. Donc, il va y avoir d'autres lois spirituelles qui vont s'opposer à toi. Eh oui! Donc, il va falloir que tu connaisses ces lois du royaume de Dieu et que tu les amènes à être appliquées et qu'elles dominent les lois négatives du royaume des ténèbres. Et dans le leadership, il va falloir que tu exerces cet art-là. Comprends bien ce que je dis ici. Tu es dans le royaume de Dieu, tu es la propriété de Dieu, tu es soumis aux lois de Dieu. Ces lois, tu dois les connaître. Et il y a des lois du leadership qui sont des lois divines. Mais tu n'es plus du monde, mais tu es dans le monde. Et le monde, les systèmes de ce monde sont gérés par le diable. Soyons clairs, la parole de Dieu le dit clairement. Le diable n'est pas propriétaire de la terre, c'est Dieu qui est propriétaire de la terre. Mais la gestion des systèmes de ce monde avait été donnée à Adam et a été léguée à Satan. Donc Satan gère le monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tel désordre dans ce monde, de tellement d'injustices. Et dedans, toi tu es là, tu es soumis au royaume de Dieu, il y a des lois que tu dois connaître, et ces lois doivent dominer, tu dois apprendre à faire dominer ces lois dans ta vie contre les lois du royaume de ténèbres. Et entre autres, il y a une immense bataille au niveau du leadership, au niveau des finances aussi. Il y a d'immenses batailles, parce que Satan c'est une chose, si l'église de Dieu a des finances, elle a de la puissance financière et elle peut multiplier le message de l'évangile. Et ça, le diable sait très bien. C'est pour ça d'ailleurs que le message de la pauvreté a été prêché aux religieux. Les religieux n'ont fait que de prêcher la pauvreté. Pourquoi ? Parce que le diable sait très bien que lorsqu'il y a la pauvreté, il n'y a pas d'influence. Soyons clairs. Quand il y a la pauvreté, il n'y a pas d'influence. L'argent a un pouvoir. Oh, s'il vous plaît, dites amen. L'argent a un pouvoir. Maintenant, il a un pouvoir dans les mains de celui dans lequel il y a cet argent. Si c'est une personne, si c'est un païen, il va financer quoi ? Son propre ventre. Il va financer le péché. Il va financer des choses qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu. Eh oui, soyons clairs. Arrêtons de nous voiler la face. C'est ce qu'il va faire. Le païen, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, si c'est dans les mains d'un chrétien qui n'est pas sanctifié, qui n'a pas une mentalité divine, qu'est-ce qui va se passer? Ce chrétien va faire n'importe quoi. Ou il va rétrograder. L'argent aura un pouvoir sur lui, malheureusement. Ce n'est pas lui qui va dominer l'argent, leadership. Mais c'est l'argent qui va le dominer, tristement. Mais quand l'argent est dans le pouvoir d'un chrétien né de nouveau qui a une mentalité divine, là, le diable a peur. Là, le diable a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a dans tes mains un potentiel de faire avancer le royaume de Dieu. Le leadership, les finances, ont été abandonnés par les chrétiens. Ou alors, ont été mal vus par les chrétiens, ou mal faits par les chrétiens, mal exercés par les chrétiens. Et ça, c'est très mauvais, frères et sœurs. Il y a un excellent message de leadership et de finance dans la parole de Dieu. Non pas pour toi, mais pour lui. Pour faire avancer son royaume. C'est une question de mentalité. Quand les mentalités ne sont pas transformées, tout ce que l'on va toucher, ça va être une catastrophe. Quand nos mentalités sont transformées par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, ce que tu commences à faire, tu comprends. Parce que tu le fais selon Dieu. Tu ne le fais pas selon un espèce de truc religieux bizarre, mais tu le fais selon le Seigneur Jésus. Et tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important. Quand on parle de réussite, moi je ne parle jamais de réussite et de prospérité sans parler de mentalité, de transformation de mentalité. Sinon c'est une catastrophe. Récemment, j'entendais, d'ailleurs il y a quelques jours de ça, des gens qui sont venus dans un endroit et qui disent « Nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des ambassadeurs ». Et c'était un responsable de jeunes d'une église. Et il me disait, mais j'étais choqué, je voyais ces jeunes qui étaient dans la rue en disant, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs. Bon, c'est bien gentil, tout ça, mais ça veut dire quoi, je suis un ambassadeur? C'est d'abord, j'ai été transformé. C'est pas simplement un petit langage que tu vas dire à droite et à gauche. De plus en plus, nous avons des trucs qui sont à la mode, où les gens déclarent des choses, mais ils ne les vivent pas. Non, d'abord, change ta mentalité. Sois transformé, produit selon le royaume de Dieu. Et après, tu vas commencer à pouvoir donner un exemple aux autres. Nous avons besoin de bons exemples dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de gens qui vont très haut, qui vont très loin et qui ne sont pas en train de dire Jésus à toutes les sauces. Excusez-moi de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mis Jésus à toutes les sauces et qui ont vécu dans un compromis épouvantable et qui ont été un discrédit pour le nom du Seigneur. Ne soyez pas de cette génération-là. Soyez de la génération où vous faites, vous appliquez la parole de Dieu. Et les gens viennent à vous en vous disant, mais qu'est-ce que tu as de différent? Et tu ne vas pas lui dire, j'ai quelque chose. Tu vas lui dire, j'ai quelqu'un. Et là, par contre, c'est bon, encore quelques minutes pour la première séance, d'accord. Et là, vraiment, directement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Les gens vont venir, vont être attirés par toi, par la qualité d'excellence de vie que tu émanes de ta personne. Les gens ne seront pas là, te suivront sur tes discours. Ils vont te suivre parce qu'ils voient en toi quelque chose que tu émanes, quelque chose que tu rayonnes. C'était le cas de Joseph. Quand vous étudiez le cas de Joseph, qu'est-ce que vous voyez? Joseph, vous savez, la Bible nous dit que Joseph, Dieu était avec lui. Mais vous croyez que c'était par hasard? Quand on lit ça, on a l'impression que « Oh ben Joseph, je t'aime bien, je vais être avec toi. » Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour que Dieu se manifeste au travers de nous, nous devons appliquer les mentalités de Dieu. Nous verrons que Joseph avait une mentalité d'excellence. Et de par cette mentalité d'excellence, il a attiré la faveur de Dieu qui a attiré la faveur des hommes. Et c'est pour ça que partout où Joseph passait, il réussissait. Partout où Joseph passait, chez Potiphar, directement Potiphar a dit, mais celui-ci, il a quelque chose de spécial. Et vous remarquez que Joseph n'a rien dit sur Dieu, à propos de Dieu. En tout cas, ça ne nous est pas relaté dans la Bible. Mais directement, il a eu des promotions. Après, il s'est fait trahir par la femme de Potiphar, il est redescendu en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prison, directement, l'intendant de la prison a dit, mais ce garçon, il a quelque chose de spécial. Il a quelque chose de spécial. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la promotion encore. Partout où Joseph passait, il avait la promotion. C'est pas par hasard ces choses-là. Ce n'est pas par hasard. Il y a des chrétiens qui prient pour des promotions et ils sont tellement minables à leur boulot qu'ils n'auront jamais de promotion. Il y a des gens, on les embauche et ils lisent leur Bible 2 ou 3 heures par jour au travail. Tu crois que tu vas avoir de la promotion ? Moi, si je suis patron, même chrétien, même dans mon église, dans le staff, les gens ne lisent pas leur Bible 2 ou 3 heures par jour. Je n'admets pas ça. Ils travaillent. Ils doivent servir. Ils ne sont pas là pour lire leur Bible. On ne les paye pas pour lire la Bible. On les paye pourquoi ? Pour travailler. Il y a tellement de chrétiens qui ont des mentalités de médiocrité que Dieu ne peut pas les faire avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité divine. Et ils se retrouvent à être dans l'échec, à être dans des... Ils prient, ils sont là, ils disent « Oui, le Seigneur va donner, le Seigneur va » et le Seigneur ne peut rien faire. Pourquoi ? Ah, parce que mon chef est méchant. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi. Si tu changes à l'intérieur, si tu changes ta mentalité, si tu commences à acquérir le caractère de Dieu, entre autres dans le leadership, c'est notre sujet ici, mais je pourrais vous parler des finances, je pourrais vous parler de beaucoup de choses. C'est le même principe. Tu commences à acquérir les mentalités de Dieu. Tu deviens quelqu'un selon Dieu. Parce que tu es né de nouveau, oui, ton esprit est recréé, mais ta mentalité n'est pas recréée. Ta mentalité, il va falloir que tu travailles dessus. Et il y a du boulot, croyez-moi. C'est un des domaines où nous devons guérir nos mentalités, nos façons de voir les choses. Et entre autres, dans le leadership, c'est un gros problème que l'on rencontre. Il y a les petits chefs, il y a les gens qui sont autour du pasteur, qui veulent faire des coudes là, pour essayer de monter à côté du pasteur, dans les églises. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du mauvais esprit, c'est-à-dire qui racontent des choses sur les autres, pour avoir une place. Ça, c'est des mentalités de petits, de minables. Ce n'est pas du leadership, ça. Peut-être que tu auras la place du petit chef et tu pourras crâner un peu, mais c'est minable. C'est absolument minable. Tu n'apporteras rien. Ce n'est absolument pas divin. Lorsque ta mentalité est transformée, qu'elle est une mentalité d'excellence, à ce moment-là, il y a des choses qui se produisent. Tu attires la faveur de Dieu. Tu attires quelque chose de divin dans ta vie. Et à ce moment-là, tu commences à voir les choses surnaturelles se produire. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne prie même pas, qui se produisent parce que j'applique des lois du royaume de Dieu. Il n'y a pas besoin de prier pour tout, frères et sœurs. Il y a des gens qui prient pour tout. Avant de sortir de la maison, ils prient pour les premiers pas qu'ils vont faire avant d'arriver à la voiture. Ils prient pour aller chercher leur pain. Ils prient quand ils vont à la station-service pour l'essence. Ce n'est pas de la prière, ça. C'est du baratin. Que Dieu n'entend même pas. Non, il y a beaucoup de choses que nous devons transformer en nous-mêmes. Au travers de la mentalité du ciel. Quand tu acquiers cette mentalité, tu ne peux pas échouer. Tu vas te retrouver dans des lois spirituelles qui vont être en ta faveur parce que tu sais les mettre, les faire fonctionner en ta faveur. Si tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui échouent à cause de ça. Parce qu'ils ne comprennent pas que nous sommes dans ce royaume, le royaume de Dieu. Mais nous sommes dans ce monde qui est influencé par la mentalité de l'ennemi. Et justement, il va falloir que tu apprennes à dominer, à exercer un leadership selon une mentalité divine pour que ces lois négatives, ces lois sataniques puissent se courber devant ta face et que tu puisses dominer selon Dieu pour apporter sa gloire. C'est ça le vrai leadership. Pour amener l'influence du royaume de Dieu autour de toi, dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, dans le domaine dans lequel Dieu a mis des dons en toi. Que ce soit pour certains types de travail, que ce soit pour aider les populations, que ce soit pour le ministère, partout, que ce soit dans ta famille, etc., etc., il y a des lois. Si tu les mets en action, tu les connais et que tu les mets en action, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Par contre, si tu violes constamment ces lois et que tu te couvres avec la prière, tu vas échouer. Eh oui. Et ça, je vous dis, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Si tu as une grande vision, que le Seigneur t'a parlé clairement, ça ne se passera pas par hasard. Il va falloir que tu amènes cette vision à la réalité. Et tu ne l'amèneras pas si tu n'acquires pas les mentalités de Dieu. Ça veut dire que le plus gros travail au départ qui doit être fait, c'est en toi. C'est en toi. Et c'est ce que nous allons étudier. Nous allons faire une pause maintenant et nous allons commencer à entrer dans les lois du leadership. Et vous allez voir, nous allons étudier 21 lois sur le leadership que vous allez vraiment découvrir et ça va énormément vous aider. Mais c'est un enseignement qu'il va falloir que vous méditiez et remédiez. Là, je veux vous provoquer au travers de cet enseignement pour vous dire, mais finalement, celui qui est le problème, c'est moi. Quand tu réalises que tu es ton problème, tu vas... Moi, le jour où le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, oh, c'est pas possible. C'est trop facile d'aller chercher les problèmes chez les autres. Le jour où tu réalises que c'est toi-même ton propre problème, tu es toi-même ton propre blocage, d'un seul coup, tu dis, ben, finalement, si je change, les choses vont se produire. Et exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu commences à réaliser que le plus gros travail est sur toi, que tu dois transformer ta mentalité pour acquérir la mentalité d'excellence de Dieu, alors qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, tu vas attirer toutes ces choses divines. Tu vas commencer à laisser le royaume de Dieu s'influencer. J'ai enseigné sur une chose qui est très importante dimanche, ici même, c'est que l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis dépend de toi. L'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis dépend de toi. Là où tu en es aujourd'hui, c'est ce que tu as cru, c'est ce que tu es exactement. Maintenant, tout dépend où tu veux aller demain. Et nous allons étudier ça.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.